C'est pas du vent. Anne-Cécile Brun et Arnaud Jouve.
Bienvenue dans votre magazine de l'environnement. Climat, énergie, c'est maintenant 3 ans pour sauver le monde. C'est le titre du livre publié par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean. Alain Grandjean viendra nous en parler dans la deuxième partie de l'émission. Mais tout de suite, Arnaud.
Mais tout de suite, nous revisitons l'actualité environnementale du jour avec notre invité aujourd'hui, Sébastien Genest. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de France Nature Environnement.
C'est bien ça.
Alors Sébastien Genest, on vous propose de commencer avec ce rapport du PNUE qui est sorti hier et qui confirme que l'Amazonie serait de plus en plus menacée par le développement économique. Elle aurait perdu aujourd'hui 17% de son couvert végétal, soit près de 857 000 km², c'est quand même colossal, c'est pratiquement la superficie du Venezuela, bien que les autorités brésiliennes de leur côté sont engagées à réduire de 70% leur déforestation d'ici à 2018 dans le cadre de leur programme de lutte contre le changement climatique. Alors cette forêt, on le sait, hein, joue un rôle important dans nos équilibres planétaires. Elle est régulièrement prise en exemple parce qu'elle est à l'image du monde et des enjeux que nous devons résoudre.
Elle est au cœur des préoccupations. La déforestation, c'est évidemment un des problèmes qui est récurrent, que l'on parle depuis un certain nombre d'années. Nous n'avons pas réglé, en fait, ce problème-là. Nous avons toujours des problèmes de déforestation, d'exploitation illégale des bois. Nous devons arriver à traiter aussi ce problème dans le cadre du réchauffement climatique, étant donné que la déforestation représente à l'échelle mondiale aux alentours de 20% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est énorme. Et cela demande une mobilisation générale pour arriver à accompagner ces mêmes pays qui sont confrontés à des difficultés conséquentes. Et ce n'est pas simplement une interdiction qu'on peut déclarer, décréter. C'est un accompagnement réel de ces pays, des populations locales, pour pouvoir trouver d'autres solutions.
Alors, selon l'association écologiste Greenpeace, les pays d'Europe enverraient quotidiennement des milliers de produits électroniques usagés vers l'Afrique. Et cela contaminerait les gens les plus pauvres, souvent des enfants, qui en démontant ces appareils, sans mesure de précaution, s'exposeraient à des matières chimiques hautement toxiques, comme le mercure, le plomb, le cadmium. Et le Nigeria serait devenu d'ailleurs l'un des plus grandes décharges du monde sur les déchets électroniques en provenance des pays développés. Alors, on a l'impression que peu de choses changent, c'est quand même incroyable qu'encore aujourd'hui, on continue à exporter nos déchets toxiques et en plus vers l'Afrique.
C'est le cas. Ça revient et ça repose le problème de nos modes de vie. On a un mode de vie, un mode de production, un mode de consommation qui n'est pas tenable. Et la preuve en est, puisque quand on est amené à faire gérer nos propres déchets à l'autre bout de la planète, ça montre bien que c'est pas viable, c'est pas soutenable, c'est même contre-productif et inhumain, puisque on envoie nos problèmes dans d'autres pays de la planète. Donc il est clair que chacun doit reprendre et assumer ses responsabilités. On ne peut pas durer comme cela et avec des produits qui, en plus, ne sont pas forcément recyclables. Enfin bon. C'est un non-sens. C'est toute la logique qui se cache derrière de comment on reconstruit et comment on repense notre propre économie. On en revient tout doucement à des logiques d'économie verte. Et donc, au-delà d'en parler, au-delà d'y penser, il faut passer à l'action, tout simplement. Et l'économie verte, c'est pas qu'un problème économique, c'est évidemment un problème social et environnemental. C'est un ensemble, c'est un tout qui doit se tenir.
Alors en ce moment justement il y a des plans de relance un peu dans plein de pays, notamment en France. Nicolas Sarkozy s'est exprimé hier à la télévision sur l'aspect social et on entendait beaucoup on lisait dans les éditoriaux des journaux aujourd'hui que on a l'impression qu'on ressort les vieilles recettes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Deux choses. À très court terme, sur un plan purement économique, il est clair que à l'échelle de la planète, et j'enfonce une porte ouverte en disant que on a été rarement confronté à un problème de ce type. Donc, il y a des réponses de très court terme à apporter. Notre espoir et ce que nous portons en termes de propositions, c'est que les réponses à apporter, elles doivent bien être pensées avec le coup d'après. Le coup d'après, c'est comment on relance une économie, mais qui soit pérenne dans l'avenir, et que les solutions de très court terme ne nous enterrent pas. Donc, d'arriver à faire des bons choix. Les plans de relance qui sont faits au niveau franco-français aujourd'hui sont pas en opposition globalement avec une idée d'une nouvelle économie verte à construire, mais à l'inverse, et c'est là où il y a plus que la demi-teinte, ce n'est pas des options qui ont été prises pour s'engager dans une nouvelle voie. On n'est pas contradictoire, mais on ne s'engage pas encore. Donc
qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre et que vous n'avez pas entendu ?
Le PNU parle de New Deal écologique. C'est une vraie révolution qu'on essaye d'impulser au niveau des Nations Unies actuellement.
Le PNU, on le voit au niveau des avec le président Obama, on le voit un peu partout, on voit un peu partout apparaître ce type de choses, et il est clair que le côté rassurant, c'est que cette configuration là, cette idée là est reprise, et que donc il y a une appropriation progressive qui est en train de se faire. Mais c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on est aujourd'hui confronté à une situation où c'est maintenant qu'on doit avancer, et ce n'est pas dans 10 ans. C'est d'arriver à valoriser en fait les masses d'argent qui sont mobilisées pour lutter contre la crise socio-économique auquel on est confronté, pour prévoir et construire l'avenir. En clair, il y a notamment des aspects de recherche technologique sur sur de l'éco-conception, sur une gestion différente aussi de notre aménagement du territoire. C'est bien souvent un problème d'indépendance des territoires qui doit être reprise et remise au cœur du sujet. Ça commence par l'alimentaire. La souveraineté alimentaire ne veut pas dire de l'autarcie. La souveraineté alimentaire veut dire que chaque peuple, partout où il se trouve sur la planète, soit en capacité d'arriver à subvenir à l'essentiel de ses besoins. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut pouvoir progresser.
Alors, je vous propose une dernière petite nouvelle. En Afrique de l'Ouest, actuellement, on a des chenilles qui sont en train d'envahir absolument tous les pays. On a une nouvelle espèce de chenille noire et blanche qui est en train de se répandre partout au Libéria. Le Libéria appelle au secours. Les autres chenilles qui étaient déjà sur le terrain depuis plusieurs mois, des chenilles noires et jaunes, elles sont actuellement en train de rentrer en Côte d'Ivoire. Elles sont en train de dévaster toute l'agriculture cacaoyère de ce pays. Les pays appellent au secours. Enfin, il y a une situation tout à fait madame. C'est quand même des événements qu'on avait, d'abord que les pays ne connaissaient pas. On est face à des situations tout à fait nouvelles et qui surprennent tout le monde. C'est une question qui vous...
Ça m'appelle de réaction. La première, c'est le fait que les différentes mécaniques qu'on a mis en place ont été dans le sens de la spécialisation des territoires et des pays. Et en même temps, en se disant, mais tiens, tel pays va produire le cacao, tel autre va produire les protéagineux, donc ça c'est pour le Brésil, et qui permettent d'alimenter l'Europe pour son élevage. Et à force de vouloir spécialiser, plus on artificialise, plus on fragilise. Et c'est bien un problème de diversification. Alors, la diversification ne veut pas dire que on va régler toutes les difficultés, mais la diversification sera un des éléments pour arriver à répondre à des difficultés. En tout cas, tempérer les impacts. Entre 100 000 hectares de cacao et simplement sur ces mêmes 100 000 hectares, on n'en a que 10 ou 15%, et avec d'autres cultures qui sont à côté, on voit bien tout simplement, c'est du bon sens, c'est des logiques de bon sens, on voit que l'impact ne sera pas le même si on a une chenille qui s'attaque particulièrement au cacao. Enfin, c'est aussi simple que ça.
Du vent, Anne-Cécile Bras, Arnaud Jouve.
sommes dans C'est pas du vent sur RFI et c'est l'heure de se pencher sur l'actualité environnementale d'une partie du monde. Et aujourd'hui, c'est l'Asie et le Pacifique.
Bonjour Georges Rebou.
Bonjour Arnaud et bonjour à tous.
Alors on commence avec la Thaïlande, avec cette histoire qui sent le soufre.
Oui, il y a un problème avec le ministère de l'Industrie, c'est ce qu'indique le Bangkok Post du 17 février. Le ministère de l'Industrie en question vient de retirer de la liste des substances dangereuses un certain nombre de produits chimiques et radioactifs. Et dans le même mouvement, il vient de dresser une liste de 13 végétaux qu'il envisage d'ajouter à la liste des produits toxiques. Alors, les militants alternatifs réclament évidemment des explications et dénoncent l'absence de transparence. Ils estiment qu'en général, ce genre de décisions sont prises dans la plus totale opacité. Ils redoutent que tout cela ne soit qu'une manœuvre pour exonérer de leurs responsabilités une dizaine de compagnies qui ont apporté illégalement du soufre au cours de ces dernières années. Jusqu'à présent, donc, le soufre était soumis à des autorisations spéciales pour l'importation en Thaïlande. Ce n'est plus le cas depuis le 3 février. Les militants ont porté plainte contre le ministère de l'Industrie, à la fois pour cette affaire de soufre et pour violation du droit des fermiers à utiliser des pesticides à base des 13 végétaux en question, désormais classés toxiques. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport, mais le soufre compte parmi les substances actives des pesticides et des fongicides, qui sont deux familles de produits largement répandus dans le secteur agricole. Donc, en Thaïlande, on autorise le soufre, on interdit les végétaux. Ça se passe à Bangkok.
It's an image that's adorned 1,000 postcards. Mystical men enticing snakes to dance to soulful music. But when they took to the streets of Calcutta, it wasn't to charm tourists, but to protest a ban, which they say is killing their profession.
Alors, snake charming George, là, on entend un extrait d'un reportage de la BBC. Qu'est-ce qui se passe? On est où là?
Oui, ben écoutez, ça ressemble effectivement à une carte postale indienne. C'est ce que nous raconte en tout cas notre consort de la BBC, Vanessa Ini. Mais c'est pas du pipeau, c'est une vraie manifestation de vrais charmeurs de serpents. Ça se passe à Calcutta, dans l'est de l'Inde. Les temps changent et les petits métiers donc se perdent. Depuis 1991, l'activité de charmeurs de serpents est interdite, mais les derniers charmeurs de serpents indiens s'accrochent. Ils ne veulent pas perdre leur boulot. Ils demandent aux autorités de faire marche arrière. Ils réclament également l'installation de fermes d'élevage de serpents et d'unités de production de sérum à base de venin de serpent qui pourraient permettre aux professionnels de se recycler en cette activité à vocation médicale. Ils se plaignent d'être constamment harcelés par la police qui saisit les serpents et qui évidemment ne dédommage pas les propriétaires. Malgré l'interdiction de 1991, on estime qu'il y a encore quelques 800 000 charmeurs de serpents en Inde, dont 100 000 pour le seul Bengale occidental, dont Calcutta est la capitale.
Alors pour les éléphants d'Asie, les perspectives d'avenir sont très incertaines.
Oui, et même très sombres si l'on en croit le groupe Trafic, qui est une organisation de contrôle du commerce des espèces sauvages. Ce sont les éléphants indochinois, hein, dont la survie est menacée à cause de leur ivoire, évidemment. Un kilo d'ivoire d'éléphant laotien, cambodgien ou vietnamien peut coûter jusqu'à 1 500 $. Forcément, ça pèse d'un poids considérable sur l'espérance de vie des derniers pachydermes. À la fin des années 80, ils étaient environ 6 200 dans les trois pays, le Laos, le Vietnam et le Cambodge. Donc, en 2000, on estimait leur nombre à 1 500 environ. Aujourd'hui, au Vietnam, il en subsisterait quelques 150 selon l'organisation Trafic. Le gros du trafic proviendrait du Laos, tandis que le Cambodge et le Vietnam seraient, eux, des pays secondaires en termes d'approvisionnement. C'est un destin particulièrement tragique et injuste pour les éléphants de la région, dont je rappelle la contribution essentielle lors des guerres anticoloniales. Les éléphants ont en effet pris une part capitale dans le portage militaire des soldats vietnamiens lors de leur guerre de libération contre les Français.
Merci Georges Abou.
Merci.
C'est pas du vent. @rfi.fr.
Alors Sébastien Geneste, est-ce que ce que vous venez d'entendre vous inspire quelques réflexions?
Des réflexions, oui, malheureusement, l'état de la planète dans le monde, il est pas au beau fixe, hein, comme un peu comme on pouvait s'en douter. C'est pas un scoop, ce qui doit amener d'autant plus une réaction après, que cela soit sur les problèmes de gestion des alimentaires, de l'agriculture, de pesticides. C'est un problème général et il est clair que nous devons arriver à porter une voix autrement pour arriver à faire évoluer ce système-là. Je pense notamment par rapport à l'alimentation, par rapport à l'agriculture. Derrière se cachent des règles de l'OMC, derrière se cachent beaucoup de business international qui doit, au-delà de se moraliser, doit être tout simplement porté par les populations des différents pays pour qu'on ait des systèmes qui soient soutenables et qui intègrent et qui mettent en premier lieu les populations.
Ouais, mais en même temps, on sent bien que même si les populations se mobilisent, il faut une volonté politique derrière. Enfin...
Oui, mais l'un ne va pas sans l'autre. Si on n'a pas d'application, si on a des systèmes où on n'entraîne pas et on n'implique pas les citoyens, on n'arrivera pas à avancer non plus. Aujourd'hui, le seul contre-pouvoir possible et qui doit effectivement monter d'autant plus d'un cran, c'est l'implication des citoyens. Ça se passera par les citoyens ou ça ne se passera pas. Et ce, partout sur la planète. Il est clair que le pouvoir économique a pris une place conséquente. L'évolution de nos systèmes à l'échelle de la planète nous ont amené à ça. Du coup, ça a été au détriment du pouvoir politique. Et le seul contre-pouvoir possible qui peut arriver à maintenir un équilibre, c'est le citoyen.
Alors justement, vous êtes le président de France Nature Environnement, une organisation que nos auditeurs à l'étranger ne connaissent pas, peut-être. Est-ce que vous pourriez nous présenter, nous expliquer un petit peu justement comment ce que France Nature Environnement fait, quels sont vos objectifs, vos missions, vos effectifs? Enfin, présentez-nous votre organisation.
Avec plaisir. Le France Nature Environnement, c'est déjà la Fédération française des associations de protection de la nature. Une fédération qui existe depuis maintenant 40 ans, qui travaille dans tous les domaines, et ce, dans les territoires. Autant sur l'Hexagone que sur les territoires d'outre-mer. Ça représente un chevelu associatif réparti sur l'ensemble du territoire d'environ 3000 structures associatives. Structures associatives dans lesquelles s'impliquent des gens comme vous et moi pour arriver à les faire vivre, tout simplement parce qu'il y a une préoccupation et que l'on se sent intéressé par telle ou telle thématique, problématique environnementale, pour laquelle...
Justement, quels sont vos grands dossiers aujourd'hui?
Nos grands dossiers, c'est selon les territoires, couvrent en fait la totalité des politiques environnementales, l'environnement étant partout. Forcément, on le retrouve partout. Donc, en clair et très concrètement, ça passe de la politique des déchets, de savoir comment on arrive à imaginer une politique des déchets qui soit plus basée sur la prévention, au lieu d'arriver à le gérer par le bout du tuyau, même si le tri est indispensable, et ainsi de suite. Le problème d'une politique des déchets, c'est plus à l'amont, donc par la prévention. Mais ça passe aussi par une agriculture qui soit plus durable, et d'avoir des réflexions là-dessus. C'est aussi la forêt, c'est aussi le transport, c'est en fait la totalité de la politique environnementale.
Merci Sébastien Genest, vous reviendrez dans l'émission nous parler de ces différents dossiers. C'est pas du vent, revient juste après un rappel de l'actualité. Nous recevrons Alain Grandjean pour son ouvrage coécrit avec Jean-Claude Jancovici. C'est maintenant 3 ans pour sauver le monde aux éditions du Seuil.
À tout de suite.